Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et les garçons, à demain 16h comme d'habitude. Nous c'est parti pour le 18-20 de France Inter, on est ouvert, poussez la porte et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme tous les soirs, on commence avec le journal et Amélie Perrier, bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi commence aux Pays-Bas.
L'Europe endeuillée par une fusillade dans le tramway d'Utrecht aux Pays-Bas, donc 3 morts, 5 blessés. La police recherche un suspect, un homme de 37 ans né en Turquie. En France, le gouvernement prêt à interdire les manifestations sur les Champs-Élysées si les casseurs s'en mêlent encore, réponse de fermeté du Premier ministre Édouard Philippe. Il remplace également le préfet de police de Paris. Dans le même temps, les gilets jaunes qui ont semé le chaos samedi sur les champs passent en comparution immédiate, récit des audiences à venir dans ce journal. Le Mozambique face au déchaînement des éléments, le cyclone Idai a balayé la côte du pays et ravagé la deuxième ville. Le président craint plus d'un millier de morts. Et pour rêver, malgré tout, nous terminerons au cirque avec de la magie nouvelle, la grande tendance dans le monde du cirque aujourd'hui.
À 18h15, un jour dans le monde, en Nouvelle-Zélande, ce soir qui se remet mal forcément. Il faudra beaucoup de temps de ces attentats de Christchurch. Et l'idée ce soir, c'est d'aller la chercher, cette Nouvelle-Zélande. C'est quoi exactement ce pays? En quoi sont-ils intégralement différents de leurs voisins australiens? C'est quoi le Kiwi Way of Life? On verra ça avec notre première invitée. Ce soir, nous sommes aussi en Irak avec ceux qui essaient de constituer des dossiers pour les crimes de masse commis par Daesh. Et puis, 19h20, le téléphone sonne précisément. Ce soir, on s'intéresse aux enfants de djihadistes. Le sujet fait frémir certains d'entre vous, on le sait. Et dans le même temps, des avocats déposent plainte devant l'ONU. Ils l'ont fait ce matin. Alors allons-y, parlons franchement. Que craignez-vous? Qu'imaginez-vous de ces enfants? Que pensez-vous que l'on devrait faire? Est-ce que vous savez comment travaillent avec eux les services sociaux? N'hésitez pas avec toutes les questions qui vous passent par la tête. Et ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.
France Inter.
Une attaque donc, Amélie, en pleine rue à Utrecht.
Il faut rester prudent pour ce qui est de qualifier aujourd'hui cette attaque. Mais ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'un homme a ouvert le feu ce matin dans le tramway d'Utrecht aux Pays-Bas. Le maire de la ville annonce 3 morts, 5 blessés. On ne sait pas s'il y a un assaillant ou plusieurs. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter à Utrecht. Alors la police est à la recherche d'un homme identifié ce soir.
Oui, la photo de ce suspect d'origine turque a été tweetée par la police en début d'après-midi, ainsi que son identité. Il s'agit d'un homme de 37 ans, connu pour des faits criminels, de droit commun. On le voit debout dans ce qui semble bien être un tramway, photo tirée d'une caméra de surveillance. Après avoir tiré sur les passagers d'une rame ce matin, vers 10h45, le tireur se serait enfui dans une Clio rouge qu'il a braquée, puis il s'est évaporé. Précisons que la police évoque, vous le disiez à ce stade, un seul assaillant, mais n'exclut toujours pas qu'il y ait eu d'autres tireurs. Dans un point de presse, elle a même évoqué tout à l'heure plusieurs fusillades dans la ville sans donner plus de détails. En fait, on ne sait pas grand-chose à ce stade sur cette tuerie. Vous le disiez, il faut rester prudent. Dans le quartier de l'attaque, un quartier de tours et d'immeubles un peu excentré du centre-ville, la population est restée terrée chez elle toute la journée jusqu'à ce que l'on retrouve la voiture abandonnée plus au nord. Le confinement a donc été levé, y compris dans les écoles du quartier. Des patrouilles d'unités antiterroristes, des unités à cheval, des hélicoptères restent mobilisés pour cette traque qui s'étend désormais à toute la ville et à l'échelle du pays. Les gares, les aéroports de La Haye, d'Amsterdam ou encore de Rotterdam sont en état d'alerte et la campagne électorale en cours pour les élections provinciales de mercredi a été suspendue.
Merci beaucoup Angélique Bouin, direct d'Utrecht aux Pays-Bas pour France Inter. Et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte n'exclut pas de son côté la piste terroriste. Dans ce cas, ce serait une attaque contre notre civilisation, dit-il, contre notre société tolérante et ouverte. Le terrorisme là a endeuillé la Nouvelle-Zélande vendredi dernier quand un Australien d'extrême droite a tué une cinquantaine de musulmans dans des mosquées de Christchurch. La chef du gouvernement Jacinda Ardern a annoncé ce matin qu'elle avait donné son accord de principe pour durcir la loi sur les armes. Elle veut présenter des mesures d'ici lundi prochain. Aujourd'hui, les seules conditions pour acheter une arme, c'est d'être âgé de plus de 16 ans et d'être jugé compétent et convenable.
Et on y reviendra dans Un jour dans le monde, Amélie, tout à l'heure. La sécurité, le maintien de l'ordre au cœur des préoccupations de l'exécutif en France aussi.
Après les violences du dernier samedi de manifestation, des gilets jaunes, pillages et incendies sur les Champs-Élysées, Édouard Philippe, le Premier ministre, était sommé de durcir le ton. Il vient d'annoncer un changement de stratégie. Nous allons renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre, a-t-il dit, en annonçant l'interdiction des manifestations sur les Champs-Élysées à Paris, sur la place Péberlan à Bordeaux ou place du Capitole à Toulouse, si des ultras sont également présents. Il veut aussi punir ceux qui attisent la colère sur les réseaux sociaux.
Je ne confonds pas les casseurs et la très grande majorité des gilets jaunes qui d'ailleurs ne manifestent plus aujourd'hui. Mais j'ai eu l'occasion de le dire. Lorsqu'une manifestation est non déclarée, interdite, qu'elle est organisée pour casser tous ceux qui participent, qui de facto protègent les casseurs, qui les encouragent ou les glorifient sur les réseaux sociaux, se rendent complices. Ils devront prendre leurs responsabilités. Les manifestants pacifiques doivent prendre leur distance avec ces casseurs. J'ai donc demandé à la garde des Sceaux d'augmenter très nettement le montant de la contravention encourue en cas de participation à une manifestation interdite. Un certain nombre de personnalités ont encouragé et légitimé les violences et continuent à le faire sans vergogne. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de saisir systématiquement la justice à leur encontre en utilisant les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale.
Autre annonce d'Edouard Philippe, le départ de l'actuel préfet de police de Paris. Dès mercredi, Michel Delpuech sera remplacé par Didier Lallement. Il est actuellement le préfet de Nouvelle-Aquitaine. Il a été avant secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et puis, demain, ne manquez pas sur France Inter, le ministre de l'Intérieur, Philippe Castaner. Il sera l'invité exceptionnel du grand entretien de la matinale. À partir de 8h20, il répondra aux questions de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Voilà pour la réponse politique, réponse économique aussi à Bercy, des organisations patronales, les fédérations de commerçants et d'artisans, les représentants des assureurs, d'hôteliers, de restaurateurs ont été reçus au ministère de l'économie pour faire le point sur les pertes à cause des gilets jaunes et sur les aides de l'État. Les assureurs, eux, ils ont déjà fait le bilan sans compter les dégâts de samedi dernier. La facture s'élève à 170 millions d'euros. 10 000 déclarations de sinistres a recensé la Fédération française de l'assurance. Réponse judiciaire aussi aujourd'hui. Une quarantaine de manifestants passaient devant le tribunal en comparution immédiate à Paris. Laurélie Carré, vous suivez ces audiences pour nous, audiences simultanément dans quatre salles du TGI. Alors quel profil et quelle défense pour ces gilets jaunes, Laurélie ?
Les prévenus qui se succèdent dans le box affichent tous une mine penaude et un air un peu paumé. Aucun n'a de casier judiciaire. À commencer par ce lycéen de 19 ans, frêle, les cheveux en bataille. Samedi, raconte-t-il, il pensait rejoindre la marche pour le climat, mais s'est retrouvé sur les Champs-Élysées. Voyez à quoi ça mène quand on n'a pas le sens de l'orientation, ironise la présidente Isabelle Prévost-Desprez. Le jeune homme est jugé pour avoir fait des doigts d'honneur et donné un coup de pied à une policière. Il y a aussi cet apiculteur du Loiret, interpellé avant-hier en possession d'un jogging d'un blouson avec un antivol, trouvé par terre, jure-t-il. Il est à votre taille, le blouson, au moins. Même pas, c'est un vêtement pour femme, répond-il. C'était sa première manifestation. Vous allez chercher l'aventure, vos petites abeilles ne vous suffisaient donc pas, interroge la présidente. Vient ensuite le tour d'un troisième prévenu, 21 ans, qui se présente comme street medic, ses unités de premier secours lors des manifestations. Sauf que samedi, il venait de céder à un ami le t-shirt qui permettait de l'identifier comme tel. Dans ses poches, deux pierres. Un souvenir pour sa mère, plaide-t-il. Dans les trois cas, le parquet a demandé de la prison ferme. Au tribunal correctionnel de Paris, Laurélie Carive, France Inter.
Justice encore à Marseille, le pôle santé du tribunal de grande instance ouvre une information judiciaire à propos des boues rouges, les rejets toxiques de l'usine d'alumine de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Depuis des décennies, l'usine Alteo déverse ses boues dans le parc national des Calanques, pourtant protégé. Autre source de pollution, les pesticides et la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, franchement énervée après un vote en catimini à l'Assemblée nationale vendredi. Les députés ont repoussé l'interdiction de la fabrication en France de pesticides de 2022 à 2025. 3 ans de plus pour les industries agrochimiques pour produire ces pesticides vendus en dehors de l'Union européenne et pour protéger les emplois du secteur, disent les défenseurs du report. Argument bancal selon Ronan Dantec, le sénateur écologiste de Loire-Atlantique.
Cet amendement, il dit aujourd'hui toutes les contradictions de l'action sur l'environnement, c'est-à-dire que aujourd'hui la France s'engage dans les mots pour sortir des pesticides, notamment du glyphosate, et voilà un amendement qui dit que finalement on pourrait fabriquer en France des pesticides toxiques pour l'environnement et les vendre ailleurs, les exporter en dehors de France. L'argument sur lequel il y a des emplois derrière, on le connaît par cœur. D'autres sénateurs l'avaient utilisé pour revenir sur l'interdiction des plastiques jetables. On peut dire que finalement, derrière toute activité économique, il y a de l'emploi. Sauf que d'activité néfaste pour l'environnement en activité néfaste pour l'environnement, c'est l'économie elle-même qui risque de s'effondrer. Donc tous ces calculs de très court terme, ça fait qu'on va arriver dans un système totalement absurde où, au nom de l'emploi, on finirait par détruire la planète et donc l'économie elle-même.
Le sénateur écologiste de Loire-Atlantique, Ronan Dantec, il répondait à Lisa Guyenne.
Il est 18h10 sur France Inter, une catastrophe au Mozambique, le cyclone Idaï fait des ravages.
Il vient de balayer le pays et a détruit la deuxième ville du Mozambique, Beira, à 90% selon la Croix-Rouge. Les vents et les pluies ont emporté les routes, les ponts, les toits des maisons. Les hôpitaux et les écoles sont touchés dans cette ville d'un demi-million d'habitants. Les secours ont du mal à atteindre la zone. Le bilan pourrait dépasser le millier de morts selon le président Nyusi. Nous avons joint cette habitante de Maputo, la capitale du Mozambique, inquiète car il est très difficile donc d'avoir des nouvelles de Beira.
On a encore très peu de nouvelles. Par accès terrestre, la route est encore bloquée. Il y a un pont qui s'est effondré à une centaine de kilomètres de Beira. Donc pour le moment, les secours ne peuvent pas tellement arriver. La ville de Beira en elle-même est bien sûr moins touchée que les quartiers périphériques et encore plus ensuite dans les abords de la ville, qui sont encore inaccessibles pour la plupart. C'est vrai que jusqu'à hier, on était vraiment Beira était un peu isolée du monde, coupée. Pas de communication, pas d'accès aérien, pas d'accès terrestre. Ça commence tout juste à reprendre. Les gens s'entraident beaucoup, en tout cas. On essaye de chercher tout le monde, les voisins entre eux, de faire passer des informations, des listes de noms. Les réseaux sociaux aident beaucoup là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que Beira va avoir besoin de beaucoup d'aide.
Voilà cette habitante de Maputo, joint par Olivier Poujat. Des photos aériennes des zones sinistrées au Mozambique, c'est à voir sur franceinter.fr. Quant au Zimbabwe, voisin, il est durement touché aussi. Le pays n'a jamais connu de destruction d'infrastructures d'une telle ampleur, estime le gouvernement. Et le Malawi, à côté, a également été durement mis à l'épreuve par les pluies qui ont précédé la tempête Idaï. Ces pluies ont fait plus d'une cinquantaine de morts et plus de 900 000 sinistrés. Les ressemblances sont claires, selon la ministre des Transports éthiopienne, entre les vols des deux avions des 737 MAX qui se sont écrasés en Indonésie en octobre et puis en Éthiopie il y a une semaine. Par ailleurs, le constructeur américain annonce la correction d'un logiciel de stabilisation de ces appareils. Son système anti-décrochage. La visite du cardinal Barbarin au pape François, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir gardé le silence face à des abus sexuels dans son diocèse. Philippe Barbarin est allé présenter sa démission au Vatican. L'Église a confirmé la rencontre, mais sans donner aucun détail sur la suite, le pape est libre d'accepter ou de refuser cette démission. Lui, il est le pape de la rumba congolaise. Le chanteur Koffi Olomidé vient d'être reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur au tribunal de Nanterre, en France. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis. La superstar congolaise a en revanche obtenu la relaxe pour les plaintes de 3 autres parties civiles qui l'accusaient. On va terminer avec du cirque au festival Spring. Depuis 10 ans, c'est l'un des plus innovants dans le monde du cirque. Pendant 5 semaines, il sillonne les villes de Normandie. Au programme, une trentaine de spectacles, toutes les disciplines du cirque représentées, dont celle très à la mode en ce moment, la magie nouvelle. Stéphane Capron est ainsi allé voir Lazare merveilleux, une pièce d'Antoine Thérieux. C'était donné au Trident à Cherbourg.
Le concept de magie nouvelle est né en 2002. Ce mouvement revitalise la magie en utilisant les nouvelles technologies. Pour son spectacle, Antoine Thérieux est parti de la légende de Lazare de Béthanie, cette figure biblique de l'entourage de Jésus ressuscité après sa mort. Ici, il revient sur Terre seul avec une plante verte et un oiseau. Il a fallu 3 ans de travail à Antoine Thérieux pour mettre au point tous les trucs de son spectacle.
En magie nouvelle, souvent, on fonctionne comme ça. On écrit une histoire, on a un début, une fin et après des personnages. On crée des effets qui vont vraiment servir la narration. Donc on part d'une feuille blanche. Donc à chaque fois, c'est beaucoup de temps de recherche pour arriver à l'effet voulu. Des fois, on n'y arrive pas. Moi, j'ai l'impression d'être un peu comme... Donc Lazare, d'être peut-être le dernier humain ou le premier, on ne sait pas, qui évoluerait dans une sorte de monde post ou pré-apocalyptique. Et du coup, il est seul. Et Gilburd, qui est le dernier oiseau, le dernier animal de ce monde. Et la plante qui serait le dernier végétal, la dernière plante qu'il faut préserver. Et ces ballons voilà, qui sont errants, qui sont... une population un peu plus mystérieuse.
Tout comme Lazare, le magicien Antoine Thérieux fait des miracles sur scène. Il redonne vie à Neptunia, sa plante meurtrie, tout comme à l'oiseau obèse Gilburd. Et puis, il fait valser sur le plateau la plume de l'écrivain avant de se consumer et disparaître pour replonger dans les cendres de la terre.
Voilà, c'est Lazare merveilleux. Ça vous a fait un peu rêver, Fabienne.
Oui, c'est très poétique tout ça.
Ça va tourner partout en France pendant plusieurs mois. Et quant au festival Spring, le festival de cirque, il dure jusqu'au 5 avril.
Et ben comme ça, tout est dit. Amélie, merci
Absolument.
Beaucoup. Et à tout de suite dans Un jour dans le monde.
Oui, sous les radars est asiatique. Ce soir, la suite de Me Too, c'est coup tout au Japon pour libérer les femmes de leurs talons aiguilles. On parlera des inondations meurtrières en Papouasie cette fois. Et puis les petits Chinois dorment mal, vous savez, à cause de quoi? À cause de l'école,
mais
Fabienne.
Comme je les comprends. Allez, merci beaucoup. À tout à l'heure. Autour de 18h37, ce soir, nous sommes en Nouvelle-Zélande, un pays dont on ne parle jamais, si ce n'est pour le rugby et le fameux haka. Il y a une sorte de Kiwi way of life qui a été choqué, c'est le moins qu'on puisse dire, foudroyé même par les attentats dans les mosquées. On y vient avec le premier invité dans un instant. Nous sommes aussi en Irak en reportage ce soir. Et puis, je vous remets le téléphone sonne en tête. Les retours des enfants de djihadistes, qu'on le veuille ou non, le sujet est sur la table. 5 orphelins sont rentrés vendredi. Il en reste d'autres. Des avocats de renom ont déposé plainte devant l'ONU. Mais c'est aussi la crainte qui est parfois la vôtre. Vous l'avez dit d'ailleurs dans des sondages. Alors allons-y. Que craignez-vous? Que voulez-vous pour ces enfants? Que savez-vous de leur prise en charge? Que voulez-vous connaître? Ça se passe au 01 45 24 7000.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur prefonds-retraite.fr.
Et Sébastien Léas, moins d'averses au programme de demain.
Oui, la tendance à l'amélioration va se poursuivre demain. La matinée sera tout de même nuageuse, hormis sur le pourtour méditerranéen, les Alpes et la Champagne-Ardenne qui auront un ciel plus dégagé. L'après-midi, les belles éclaircies vont gagner du terrain, notamment sur la moitié ouest, sur la moitié est, pardon, alternant entre avec des paquets nuageux. En revanche, on gardera un temps plus mitigé par endroits. Le long des Pyrénées, la journée sera plutôt grise avec quelques passages pluvieux et un peu de neige au-dessus de 800 à 900 mètres d'altitude. Sur le nord-ouest, les nombreux nuages laisseront échapper quelques averses temporaires. Et puis sur la Corse, l'instabilité sera plus marquée avec même des risques d'orage, notamment sur le sud.
Et sinon, température en baisse le matin mais en hausse l'après-midi.
Oui, ambiance un peu fraîche voire froide cette nuit et demain matin. Sur la moitié nord et le centre-est, les gelées seront un peu plus nombreuses que ce matin. On attend par exemple moins 2 degrés à Alençon et Reims et moins 1 degré à Mulhouse et Orléans. L'après-midi, les maximales vont repartir à la hausse, retrouvant globalement des valeurs de saison. Elles seront même assez homogènes. 11 degrés à Dijon, au Havre et à Nancy, 13 degrés à Bordeaux, Paris, Rennes, Tours ou encore Lyon. Quelques degrés de plus autour de la Méditerranée, 16 degrés à Aix-en-Provence, Toulon et Figari et 18 degrés pour Aigues-Mortes.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup Sébastien, on se retrouve après 19h.